Merci pour la lecture. Et notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le prophète Zacharie. Donc c'est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie au chapitre 3. Zacharie 3, et nous lirons tous les versets, donc du premier verset jusqu'au verset 10. Le prophète Zacharie. Nous lisons tout le chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 10. Donc là c'est Zacharie qui parle, il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent le turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, je fais venir mon serviteur, le germe. Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Je grave moi-même ce qui doit y être gravé, oracle de l'Éternel des armées. Et j'ôterai la faute de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, oracle de l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Jusqu'ici, lecture de la parole. Et quand nous voyons ce texte, je repense beaucoup à cet hymne chrétien, ce chant qui s'intitule Miséricorde insondable. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Et la première strophe, à chaque fois que je médite ce chant, la première strophe m'interpelle beaucoup. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Miséricorde insondable. On se dit chrétien, mais quelque part on sait que nous avons une part de nous qui est mauvaise. Nous savons que nous péchons volontairement et nous avons confessé nos péchés tout à l'heure et parfois même il nous arrive de pécher et de ne pas regretter. Et c'est grave. On est tellement insensibilisé par rapport au péché que des fois on s'oublie même que nous sommes en train de pécher. Parfois peut-être qu'on sait qu'on pêche et que ce n'est pas bien et on se dit mais Dieu pardonne. Mais jusqu'à quand Dieu peut nous pardonner? Jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau Dieu peut vraiment effacer nos péchés? Peut-être que vous dites chrétien depuis longtemps, mais vous êtes encore en lutte avec un péché qui vous colle à la peau. Ou peut-être que vous êtes en colère, souvent dans la colère, vous avez du mal vraiment à vous détacher de la colère. Ou peut-être que vous avez quelque chose qui vous harasse, qui vous fait du mal, vous avez du mal à vous en débarrasser. Vous luttez avec des addictions, avec beaucoup de choses, et vous avez du mal. Dieu peut-il tout pardonner, tout oublier? Si nous continuons sur cette route-là, est-ce que Dieu vraiment ne va pas nous rejeter? Parce que Dieu est juste, Dieu ne peut pas tolérer le péché. Donc si nous continuons ainsi, est-ce que Dieu vraiment peut nous pardonner et tout effacer? Et c'est la question qu'on voit en fait dans ce passage, que Zacharie se pose dans ce passage. Le peuple, Zacharie fait partie de ce peuple, nous l'avons lu au début, qui est revenu de l'exil de Babylone. Ce peuple est revenu. Et ils ont commencé à reconstruire le temple de l'Éternel. Il y avait la joie, il y avait beaucoup de choses. Du moins, ils ont posé les premières fondations, ils ont bâti l'autel. Mais il y a eu la paresse. Et le péché était toujours là. Au point même où certains ont fait des mariages mixtes avec d'autres peuples. Et ça les a conduits à l'idolâtrie. Et Zacharie vraiment est perplexe. Non seulement Zacharie, mais plus tard, d'autres personnes comme Esdras se lamenteront devant l'Éternel. Esdras qui dit: Ta colère éternelle n'éclaterait-elle pas contre nous, jusqu'à nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé? Nous voici devant toi, avec notre culpabilité. Nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Jusqu'à quand Dieu peut pardonner? Jusqu'à quand Dieu peut oublier? Si vraiment nous continuons sur cette voie-là de péché, Dieu peut-il tout pardonner? Pour Israël, tout comme pour nous, il faut se poser la question, quelle est la réponse que Dieu nous donne face à ça, face à ces problèmes qui nous continuent à nous ronger, face à ce péché que nous n'arrivons pas à nous débarrasser, face à cette colère que nous gardons, face à cette rancœur que nous avons contre quelqu'un, ce pardon que nous n'arrivons pas à accorder? Dieu a-t-il une réponse à nous donner? La réponse, oui. Dieu a même quatre réponses à nous donner avec ce texte. Dieu veut nous montrer qu'il est toujours avec nous, qu'il se tient de notre côté face à Satan. Il veut montrer que c'est lui qui prend en charge notre salut. Il veut aussi nous montrer qu'il nous confirme dans notre service et qu'il va nous apporter la délivrance finale en Jésus-Christ. En résumé, c'est Dieu qui restaure et nous ne devons pas craindre si nous sommes vraiment sur la bonne voie. Regardons donc ensemble comment Dieu répond à nos interrogations alors que nous continuons à marcher sur cette voie, ce chemin étroit. Relisons les premiers versets, le premier verset, le verset 2, où Zacharie reçoit cette vision. Zacharie reçoit une série de visions et il les met par écrit. Et voici cette vision où il voit, je lis, le souverain sacrificateur Josué. Connaissons bien le nom Josué, nous pensons, quand on dit Josué, on pense tout de suite au successeur de Moïse, mais là ce n'est pas le même Josué. C'est Josué le sacrificateur qui faisait partie de ce groupe revenu d'exil et qui officiait en tant que grand prêtre pour Israël. Et il le voit donc, Zacharie, et il voit aussi l'ange de l'Éternel, un ange spécial dont nous n'avons pas l'identité, et il voit aussi Satan. Satan est présent dans cette scène. Satan est là, à sa droite, pour, je cite, l'accuser. Supposons que, après ce culte, vous rentrez chez vous, vous passez une bonne après-midi, et puis vous vous préparez pour le lendemain, pour le travail, mais le réveil, voilà, on se dit, voilà, 6h30, je vais me réveiller. Et puis c'est reparti pour le lundi. Le souci, c'est que vous n'entendez pas le réveil. Et vous vous réveillez en retard. Et ce que vous ne savez pas, c'est que vous allez passer la journée la plus embarrassante de votre existence. Parce que vous vous réveillez en retard, et puis vous n'avez pas le temps de prier, vous n'avez pas le temps de manger, alors vous vous dépêchez tout de suite dans la voiture. Et là, vous avancez sur ce même carrefour que vous prenez tous les matins. Vous savez très bien le nombre de voitures qui se trouvent à ce carrefour-là. Mais comme vous êtes en retard, tout est chamboulé, alors vous perdez vos repères. Et là, vous passez ce carrefour, et c'est le feu rouge. Vous passez au feu rouge, et malheureusement, de l'autre sens vient un cycliste. Et vous le percutez. Et là, ce cycliste finit paralysé. Voire même dans le coma, voire même décédé. Alors, on vous traîne en justice et vous arrivez devant le tribunal. Et une fois que vous êtes devant le tribunal, devant le juge, il y a un témoin de la scène qui est là. Et devinez quoi? Ce témoin, c'est ce collègue-là qui n'arrête pas de vous embêter. Comme par hasard, il se trouvait là sur la scène et il a tout vu. Et il vient pour témoigner contre vous. Et voilà qu'il vient et il cite tous les faits. Il dit: Oui, j'étais là, j'ai tout vu. J'ai vu vraiment comment il a passé au feu rouge. J'ai vu comment il a percuté ce cycliste. Bien sûr, il va exagérer, mais il va dire quand même la vérité. Vous étiez en tort, vous ne deviez pas passer au feu rouge. Vous êtes passé au feu rouge, vous avez percuté ce cycliste, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Il a totalement raison, vous méritez la prison. Et c'est ce que fait en fait Satan ici en fait. Il est en train de montrer à Dieu que voilà Josué, qui est vraiment le sacrificateur d'Israël, Josué est en train est vraiment vraiment est en train à montrer vraiment montre vraiment qu'il est en train pécheur avec tout ce qu'il fait. Il représente tous les prêtres, tout ce qu'ils ont fait depuis la sortie de l'exil, avant même l'exil, tout ce qu'ils ont accompli comme péché, et il l'expose devant l'Éternel. Il dit: voilà Josué, souverain sacrificateur, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il fait. C'est un pécheur. C'est le rôle de Satan de toujours accuser. Il le fait depuis le jardin d'Éden. Il provoque, il déteste tout ce que Dieu crée. L'exemple frappant, par exemple, c'est Job. Si vous vous rappelez de Job, Job qui était un homme qui craignait l'Éternel, qui priait pour ses enfants, qui s'occupait vraiment de sa famille, du moins qu'il pouvait. Et pourtant, Satan est venu, encore une fois, devant l'Éternel, pour dire: voilà, Job, oui, il te sert, tout ça, tout simplement parce que tu lui donnes des biens. Mais essaye de tout lui enlever. Essaye de lui enlever tout ce qui lui est cher et tu verras, il va te renier. Et donc Satan vient présenter des faux arguments devant l'Éternel pour essayer de montrer que Job est vraiment un pécheur. Satan ne fait que accuser. Parfois, il amène des faits qui sont vrais, comme ici. Il est vrai que Josué et tout Israël est dans le péché. Il se marie avec d'autres femmes pour aller vraiment vers l'idolâtrie. Le péché d'avant n'est pas totalement effacé. Et donc, quelque part, Satan apporte des faits qui sont véridiques. Et quand Satan vient pour vous et pour moi, qu'est-ce qu'il présente devant Dieu? Il présente tout ce que vous avez fait dans la vie passée, tout ce que vous faites cette semaine, tout ce que vous avez fait aujourd'hui même avant de venir dans ce culte. Satan vient devant Dieu, il présente, il dit: voilà, voilà ce qu'a fait un tel, voilà ce qu'a fait un tel. Il est coupable, il mérite la prison. Vous avez percuté ce cycliste, vous méritez la prison. Ce sont des faits irréfutables. Alors la question qu'on se dit, mais comment faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être condamné? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas être mis en prison? Même si je me dis je crois en Dieu, mais qu'est-ce qui fait que je ne vais pas être rejeté par Dieu à cause de ce que j'ai fait rien que cette semaine? Qu'est-ce qui m'assure que Dieu est pour moi? Regardons la suite du texte, le verset 2. L'Éternel dit à Satan, c'est l'Éternel qui dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. C'est la première réponse que Dieu donne à Satan. Il dit: tu présentes cela? Pas de problème. Moi, je te dis que j'ai choisi Israël et que je bénis Israël. Dieu est en train de montrer à Satan qu'il se tient du côté du coupable. Dans n'importe quel scénario, nous ne pourrons pas voir une chose pareille. Mais le juge se met à défendre le coupable. On revient à la scène. Donc vous êtes devant le juge, vous qui avez percuté le cycliste. Et voici maintenant que le juge dit: pas de souci. Je vous ai choisi. Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse, que Dieu choisisse, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, Dieu choisit Israël. Par exemple, dans le prophète Malachie, il y a ce verset qui dit, là c'est l'Éternel qui parle: je vous ai aimé, mais vous, le peuple, vous dites: en quoi tu nous as aimés? Et Dieu déclare: Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé, ou alors j'ai choisi, j'ai élu Jacob, c'est-à-dire Israël, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Difficile d'entendre cela. C'est compliqué. Pourtant, c'est ce que l'Éternel déclare. Il a choisi Jacob et il n'a pas choisi Ésaü. Il a choisi Jérusalem, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Mais il n'a pas choisi d'autres nations. Dieu montre à Satan que son élection prime sur l'accusation. Et quand c'est pour nous, c'est la même chose. Que disent les apôtres? Paul dit aux Thessaloniciens, quant à nous, frères bien-aimés par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, par la foi en la vérité. L'élection, c'est l'assurance. L'élection, c'est la confiance que Dieu est en faveur de vous. Lorsque Satan présente le casier judiciaire, Dieu lui présente l'élection. Et juste après, Dieu déclare, n'est-ce pas là un tison, alors une branche arrachée du feu? Le feu, c'était l'exil, c'était vraiment cette période où Israël était loin de la terre promise, loin des promesses de l'Éternel. Et pourtant, l'Éternel était avec eux. Et l'Éternel les a arrachés de Babylone, les a arrachés du feu. Israël a payé, était dans le feu. Mais ils sont revenus et Dieu les a délivrés. Et nous aussi, nous avons déjà payé quelque part. Vous dire, mais comment? Comment je peux avoir déjà payé alors que je n'ai rien fait? Et la réponse se trouve toujours dans l'Évangile. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Romains chapitre 8. Et là, nous retournons dans le tribunal. Cette fois, c'est le procureur qui dit, non, j'ai payé. J'ai payé pour cet homme qui est coupable. J'ai payé. Il n'est pas coupable, car j'ai payé pour lui. Et donc, quand Satan vient pour accuser, alors que vous tombez, vous savez que en vous-même, il n'y a rien de bon, rappelez à Satan que c'est Dieu qui est à vos côtés, c'est le juge suprême qui est à vos côtés. Celui qui a fait porter son choix sur Jérusalem a fait aussi porter son choix sur vous. C'est alors que vous méritez le jugement, la condamnation, l'enfer. Dieu a décidé de vous aimer. Oui, vous êtes coupable. Alors oui, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même, c'est sûr. Mais l'Éternel vous a choisi et il donne une deuxième réponse au verset 3. Il se charge de votre salut. Relisons encore ce verset 3. Josué était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. Nous retournons au tribunal. Et là, la sentence va tomber. Vous avez percuté ce cycliste. Vous allez être déclaré coupable. Les faits sont irréfutables. Vous allez payer en prison. Et après, ce qu'on vient d'entendre, vous dites d'accord, mais quelque part, quelle est la preuve que Dieu sera vraiment pour moi à ce moment-là, aujourd'hui? Rappelez-vous, Dieu vous a choisi, Dieu vous a élu. Non seulement ça, maintenant il va vous montrer comment il vous a sauvé et comment il continue de vous sauver. Il y a cette image donc des vêtements sales. Les vêtements sales, c'est le péché, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est vraiment toutes ces choses lorsque l'homme pécheur vient devant Dieu. Et quand l'homme pécheur vient avec ce vêtement devant Dieu, il n'y a pas de solution, si ce n'est que l'élection et l'amour de notre Dieu. Mais en plus de l'élection, il y a cet acte symbolique magnifique au verset 4. Celui-ci, donc l'ange de l'Éternel, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, donc les autres anges, ôtez-lui les vêtements sales. Et je lui dis, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Dieu choisit et Dieu pardonne. Et il le fait d'une manière symbolique, avec ce geste d'enlever le vêtement sale. Non seulement il enlève les vêtements sales, mais il met aussi un vêtement propre, pour montrer vraiment que cette personne, je l'ai en plus non seulement choisie, mais je l'aime et je la pardonne. Je nettoie son casier judiciaire. Je la déclare non coupable. Et donc, quand Israël se trouve devant Dieu, en la personne de Josué, Dieu voit Josué innocent, non coupable, Alors qu'en lui-même, Josué sait qu'il est coupable. Dieu pardonne à Israël, il le purifie, et il compte Israël comme si Israël était juste. Donc le péché des prêtres, le péché de tout le peuple est effacé. Et c'est pareil avec nous, quand nous reconnaissons notre misère, nous mettons toute notre confiance en l'Éternel. Le Seigneur enlève tous nos péchés. Il nous enlève la culpabilité, il nous donne la vie, il nous donne un nouveau vêtement qui est la justice de Jésus. Ou comme l'apôtre Paul le dit si bien, Abraham crut à Dieu, cela lui fut compté comme justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Et là, Paul continue, de même, David proclame le bonheur de l'homme au compte de qui Dieu met la justice sans œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne compte pas son péché. Qui est l'homme heureux? C'est vous et moi qui croyez en Jésus-Christ. Nous sommes les hommes heureux. Nos péchés sont pardonnés et Dieu ne nous compte plus notre péché. Dieu a enlevé ce vêtement, il nous a donné le vêtement nouveau qui est celui de Jésus. Dieu nous a comptés comme justes, il nous a mis une justice sans œuvre, c'est-à-dire sans notre performance, sans quelque chose que nous aurions pu faire. Vous rappelez-vous, nous sommes dans ce tribunal et nous sommes totalement coupables, il n'y a rien à faire. Mais Dieu nous a donné le vêtement de Jésus, ce vêtement blanc pur. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a eu un double échange. Jésus, sa perfection, vient sur nous. Et notre péché va sur Jésus. Et donc, lorsque Dieu nous regarde, il nous dit non coupable. Et il donne le jugement non coupable. Donc, non seulement Dieu choisit, mais Dieu pardonne, efface sur la base de ce que son fils a accompli. Regardez encore la scène. On va re-regarder le verset 2 jusqu'au verset 4. Vous voyez, il y a l'Éternel qui parle à Satan, qui dit que l'Éternel te réprime, Satan, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. Et ensuite, on voit que l'ange de l'Éternel prend la parole. Il dit, ôtez-lui le vêtement. Et on lui remettez-lui un nouveau vêtement. Vous avez remarqué que Josué ne fait rien. Rien du tout. Il ne peut rien faire. Il se tient ici coupable. Mais c'est l'Éternel qui agit, qui fait tout. Dieu prend en charge votre salut. Et donc, à cause de tout ça, est-ce que vous pensez vraiment que Dieu peut vous rejeter, va vous rejeter? Sur la base de quoi? Sachant que lorsque Dieu vous voit, il vous voit comme juste. Non pas votre justice à vous, mais la justice de quelqu'un d'autre, la justice du Christ. Et donc même si aujourd'hui vous continuez à tomber, à trébucher, lorsque Dieu vous regarde, il vous voit comme juste, il vous voit comme son fils. Et je relis encore ce passage de Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Par grâce, qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc non seulement dans ce tribunal, vous avez quelqu'un qui paye pour vous, mais cette personne qui paye pour vous plaide aussi pour vous. Donc même quand c'est difficile, même quand vous êtes en train de douter, vous avez quelqu'un qui plaide pour vous, qui dit à Satan, non, 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 son casier est vierge. Il est à mon compte. J'ai déjà payé pour lui. Dieu vous fournit la preuve de son amour avec ce double échange. Dieu vous montre que il vous considère favorable devant sa face. Alors continuez à courir. Continuez à courir vers Christ. Continuez à avancer vers Christ. Et donc Dieu ne peut pas changer d'avis. Non seulement Dieu ne peut pas changer d'avis, mais en plus, Dieu vous confirme dans son service. Vous voyez la scène ensuite, l'ange de l'Éternel se tient là et il dit, Ainsi parle l'Éternel, marche dans les voies de l'Éternel, garde mes commandements, etc., etc. Donc là, vous pouvez vous poser la question, mais donc Dieu me sauve, mais est-ce que vraiment j'ai de la valeur à ses yeux? Est-ce que vraiment Dieu me considère totalement? Mais là, c'est une erreur qu'on fait, c'est qu'on regarde encore à notre vie ancienne, à notre péché, on ne regarde pas ce nouveau vêtement que Dieu nous a revêtu. On essaie de regarder à autre chose et on ne se regarde pas dans le miroir. Et quand on se regarde dans le miroir, on devrait voir ce vêtement blanc de Jésus. C'est-à-dire que Dieu m'a pardonné, Dieu m'a lavé. Et Dieu m'a dit que je suis favorable devant sa face. Regardez encore plutôt ce que Dieu fait pour vous. Il vous place à son service. Il vous dit maintenant, je te donne ce turban pur, je le mets sur ta tête. Et je te dis maintenant, avance, marche dans mes commandements fidèlement. Ou comme l'apôtre Pierre le dit, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres vers son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. C'est incroyable. Dieu fait de tous ceux qui croient en lui des adorateurs, des prêtres et des prêtresses à son service. Et donc Dieu montre par cela qu'il vous consacre encore davantage à son service. Donc vous n'avez pas à craindre cela. Au contraire, vous qui étiez criminel, vous êtes désormais un ami de Dieu. Vous êtes au service de Dieu. Et il vous donne en plus des nouveaux rôles en faisant de vous prêtre et prêtresse. Avec ce geste-là au verset 5, où il vous remet un turban pur, le turban pour le prêtre, c'est vraiment cet objet qu'on met sur la tête, et sur cet objet, il y avait marqué consacré à l'Éternel. Consacré à l'Éternel. Donc Josué est confirmé dans son service pour l'Éternel, et vous aussi, vous êtes confirmé dans le service de l'Éternel. Non seulement ça, mais il y a ce détail au verset 4, à la fin du verset 5, pardon, l'ange de l'Éternel se tenait là. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là, ce verset? C'est tout simplement parce que l'ange de l'Éternel est là pour approuver, pour montrer que oui, je suis favorable à cette restauration de Josué, cette restauration d'Israël. Je suis favorable à votre restauration, vous qui croyez en Christ. Dieu est présent pour approuver. C'est le témoin, l'ange de l'Éternel témoigne contre Satan pour dire que non, Satan, cet homme, cette femme appartient à Dieu en Jésus-Christ. Et elle est au service désormais du Seigneur. Elle est acceptée, elle est aimée de Dieu. Et puisque nous sommes acceptés, alors il faut se mettre au travail. Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Vous êtes acquitté. Nous revenons à cet exemple. Vous êtes encore devant ce juge qui a prononcé l'acquittement, qui dit que non, vous n'êtes pas coupable de cet homicide involontaire. On a déjà payé pour vous. Et donc, il va vous donner maintenant un témoignage. Il vous dit, oui, c'est bien, vous êtes acquitté, mais vous devez faire quand même un stage à l'auto-école pour une remise à niveau. Et il dit aussi que vous devez avoir un accompagnement psychologique après cet accident. Vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de chemin avant de vraiment totalement réintégrer la société. Mais dans ce chemin, vous n'êtes pas seul. Je vais vous aider, on va vous donner des outils pour retrouver une stabilité et retrouver votre place dans la société. La justice est là pour aider, mais il faut bien sûr y mettre du sien. Josué n'est pas passif. L'Éternel donne bien des ordres. Il dit, marche dans mes voies, garde mes commandements. Mais encore une fois, Josué ne peut pas y arriver tout seul, ni même tous les prêtres. Israël ne peut pas y arriver tout seul. Sinon, il y aura un nouvel exil. Tout comme nous aussi, nous ne pouvons pas arriver tout seuls à garder les commandements de l'Éternel. Nous allons échouer. C'est pour cela que je reviens à ce détail du verset 5. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel se tient là. Notre Seigneur, par son esprit, se tient là. Il vient nous aider, il vient nous assister. Il sait que sans lui, nous ne pourrons pas marcher selon les commandements de l'Éternel. Et donc il vient pour nous assister et pour nous soutenir. Alors continuons de marcher, continuons de courir vers Christ, continuez d'avancer vers Christ, sachant, n'oubliez pas, que vous êtes choisis et que vous êtes revêtus d'un vêtement blanc de Jésus-Christ. Donc Dieu ne vous compte pas comme pécheur, ne vous compte pas comme mauvais, mais vous compte comme juste, sur la base de ce que son Fils a accompli. Sans l'aide de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'ange qui se tient là, avec le Saint-Esprit qui se tient là, nous pourrons toutes choses. Donc Dieu vous a confirmé à son service. Et mieux que ça, Dieu va même vous donner la délivrance finale en Jésus. Il vous donne cette promesse que même si c'est difficile aujourd'hui, sachez que vous aurez la délivrance finale. Vous voyez la fin du passage? Où on voit que l'ange de l'Éternel reprend la parole et dit à Josué que voici, je vais faire venir mon serviteur, le Messie. Germe, ce titre-là, germe, branche, c'est ce titre qui est attribué au Messie à venir. Pour Israël, pour Josué, il y avait cette espérance de revenir de l'exil et de se dire que. Oui, nous sommes revenus de l'exil, mais nous attendons le Seigneur. Nous attendons ce Messie qui viendra nous délivrer et qui, comme il est écrit au verset 9, ôtera la faute de ce pays en un seul jour. Et donc, ils ont continué à avancer, les yeux fixés sur cette promesse que le Messie vient. Et nous sommes après. Le Messie est déjà venu. Et le Messie a accompli. Il a enlevé le péché en un seul jour, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Hébreux 9. Une fois pour toutes, Jésus est venu et il a renversé le pouvoir de l'ennemi. Il a détruit le péché une fois pour toutes. Jésus a apporté la vraie paix entre Dieu et nous, entre le juge et les coupables. Et il a changé la situation. Et Jésus a dit quelque chose. Juste avant de partir, Jésus parlait à ses disciples. Et il a dit cette phrase, ce passage qui se trouve dans Jean 14. Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais jamais dit. Mais en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi. Là où je suis. Jésus a fait cette promesse qu'il reviendra nous chercher, nous qui croyons en Jésus. Et donc, vous avancez, vous êtes un peu comme le pèlerin, comme dans le voyage du pèlerin, c'est comme chrétien qui avance sur ce chemin, il trébuche, il tombe, il y a des obstacles, il y a beaucoup de choses. Mais chrétien a cette clé en lui qui s'appelle promesse. Il a la promesse que il verra la sainte cité. Il a cette promesse qu'il atteindra sa destination. Et nous sommes un peu comme chrétiens. Et nous avons aussi fidèle qui est à côté de nous. C'est le Saint-Esprit qui nous assiste. Et nous avançons, nous trébuchons, nous tombons. Mais nous savons que nous avons cette promesse que Jésus reviendra. Il a promis, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jésus ne peut pas mentir. Jésus a dit à ses disciples, je vais mourir et je vais ressusciter. Et vous me retrouverez et nous mangerons ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et Jésus est allé retrouver ses disciples. Jésus ne peut pas mentir alors. S'il dit qu'il va revenir pour nous prendre, vous pouvez être sûr qu'il reviendra pour vous prendre. Sûr et certain. Alors vous qui vraiment avancer sur ce chemin, garder les yeux sur cette pierre. Verset 9, la pierre que j'ai placée devant Josué, cette pierre, c'est le Christ. Gardez les yeux fixés sur le Christ, avancez avec cette promesse que Jésus revient, qui va vous délivrer encore de ce corps qui est faible, de ce corps qui ne veut pas se soumettre. Jésus reviendra. Il a promis. Alors soyons confiants. Et j'aimerais quand même qu'on revienne à ce passage d'Hébreux au chapitre 9. Et regardez un petit peu ce qu'il est dit dans ce passage d'Hébreux 9, où nous voyons que l'apôtre dit dans Hébreux 9 à partir du verset 24 que Christ est entré dans le ciel pour se présenter pour nous devant Dieu. C'est exactement ce que Zacharie voyait en vision, qui s'est accompli avec Jésus, qui est venu, il est venu devant l'Éternel, à notre place. Il s'est présenté avec nos péchés devant Dieu, qui les a effacés. Et Christ s'est offert pour abolir le péché une fois pour toutes, à travers son sacrifice. Donc Jésus est venu accomplir en fait cette promesse de Zacharie qu'aujourd'hui nous pouvons voir pleinement réalisée en Christ. Donc c'est fini l'histoire du péché. Et même le péché avec lequel vous luttez aujourd'hui, ou même le trouble que vous avez aujourd'hui, est déjà vaincu. D'après ce verset, le péché est aboli une seule fois, une fois pour toutes, par Jésus-Christ. Non seulement ça, mais le verset 28, Jésus reviendra sans qu'il soit question du péché pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Jésus a fait cette promesse qu'il reviendra vous chercher, alors continuez d'avancer, sachant que il reviendra pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Dieu prend en charge votre salut. Alors ne craignez pas, continuez d'avancer. Faites comme chrétien sur le chemin. Avancez jusqu'à la sainte cité avec la clé de la promesse. En Jésus, comme a été écrit dans la fin de Zacharie, nous pourrons nous réfugier sous la vigne, sous le figuier, c'est-à-dire sous la paix, sous la sécurité. Cette paix que Israël a cherché à obtenir et n'a pas obtenue, c'est cette paix que Jésus a apportée en venant sur terre et en faisant le sacrifice. Alors continuez à courir et cachez-vous en Christ seul. Rappelez-vous que, oui, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Dieu peut tout pardonner et Dieu a tout pardonné en Jésus-Christ. Dieu se tient de votre côté et lorsque Satan va venir et reviendra encore pour vous accuser, Dieu lui montrera que non, j'ai choisi cette personne, j'ai choisi cet homme, j'ai choisi cette femme. Cette personne est pardonnée. J'ai effacé son ardoise. Et j'ai mis l'œuvre parfaite de mon fils à son compte. Non seulement ça, mais je m'occupe de son salut. Je m'occupe d'elle. Et je l'aide dans son chemin, dans sa sanctification. Je la confirme aussi à son service. Et donc il faut continuer à avancer, à œuvrer, à montrer que vous êtes des hommes et des femmes rachetés, en ayant cette espérance que Jésus reviendra et donnera la délivrance finale en Jésus-Christ. Donc avançons encore avec ces vérités, continuons d'aller vers Christ en pensant que nous sommes revêtus de sa justice. Jésus qui est vraiment ce grand prêtre, ce souverain sacrificateur, qui intercède pour nous actuellement à la droite du Père, va revenir. Prends soin de vous. Alors que Dieu vraiment vous aide et continuons à prier que Maranatha, oui, viens Seigneur Jésus, viens à notre secours et délivre-nous. Amen.
Veuillez trouver le numéro 52 dans le carnet noir.